VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a accusé aujourd'hui la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, qualifiée par les Nations Unies de milice d'être la principale responsable des exactions commises durant la récente campagne référendaire. L'une des enquêtrices, Lucie Yassouagbo, a affirmé que les Imbonerakure quadrillent le pays, renseignent les instances étatiques sur la présence d'opposants réels ou supposés dans chaque localité et sur chaque colline, harcèle, contrôle et intimide la population. Fin des citations. Les rivaux sud-soudanais Salva Kiir et Riek Machar se sont entendus sur certains points selon les autorités soudanaises et ils vont probablement signer un accord aujourd'hui à Khartoum. Les précisions avec Raïssa Girondin.
Les autorités soudanaises ont affirmé qu'un accord doit être signé aujourd'hui au palais présidentiel à Khartoum sans donner plus de détails. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont trouvé des points d'accord susceptibles de faire progresser les efforts de paix. Selon le quotidien Kenyan Daily Nation, le projet d'accord prévoit un cessez-le-feu, le déploiement d'une force africaine chargée d'en surveiller l'application et l'instauration de 3 capitales dans le pays pour répartir le pouvoir. Après leur rencontre la semaine dernière à Addis Abeba, les deux hommes se sont retrouvés hier à Khartoum pour tenter de mettre fin à une guerre civile fratricide. Ce conflit, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et a provoqué une crise humanitaire sans précédent. D'ailleurs, sur le terrain, un casque bleu du Bangladesh a été tué dans l'attaque d'un convoi humanitaire dans le sud du pays.
Éthiopie et Érythrée ont vanté les mérites de la paix hier à Addis Abeba lors de la visite historique d'une délégation gouvernementale érythréenne destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Au cours d'un dîner organisé mardi au Palais national éthiopien, le premier ministre éthiopien, M. Abiy, a assuré que la paix entre les deux pays apporterait de nombreux bénéfices à la Corne de l'Afrique, notamment des bénéfices commerciaux. Un groupe de travail de l'ONU demande la libération de l'ancien ministre gabonais du pétrole, Étienne Gbou, accusé de détournement de fonds publics et incarcéré depuis 17 mois sans avoir été jugé. L'ex-ministre est en détention préventive depuis le 12 janvier 2017 pour détournement de deniers publics dans le cadre de l'opération Mamba, dite à main propre, qui a abouti à l'incarcération de plusieurs hauts responsables au Gabon pour des soupçons de corruption. M. Ngoubou est soupçonné d'avoir détourné environ 27 milliards de francs CFA dans le cadre de projets hydroélectriques et de voiries au préjudice de l'État gabonais. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite cette semaine le deuxième forum international du logement social économique autour du thème « Relever les défis du logement en Afrique ». Cette rencontre ferme ses portes ce mercredi. Notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara est allé à la rencontre de certains participants. Reportage.
Relever les défis du logement en Afrique, c'est le thème de cette deuxième édition du Forum international du logement social, économique et standing. Un forum qui réunit les professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Il s'agit notamment des promoteurs immobiliers, des architectes, des urbanistes, des géomètres, des institutions financières et autres fabricants de matériaux. Sur les enjeux de ce forum, les explications de Siriki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Nous allons travailler durant 3 jours sur la problématique liée à toute la chaîne de production de logements, le foncier, le financement, la fiscalité et la formation des jeunes. La volonté politique est là. Il appartient aux opérateurs économiques privés de se faire accompagner par l'État et de produire des logements en masse pour loger, évidemment, le maximum, en tout cas, d'Ivoiriens.
Les participants venus de plusieurs pays, dont la Turquie, l'Espagne, l'Égypte, le Burkina Faso, le Bénin et la Côte d'Ivoire, ce forum est une belle opportunité d'échange. On écoute ce participant béninois.
La décision du gouvernement d'imposer aux certaines structures bancaires d'octroyer des crédits à un taux de remboursement de 5% pour pouvoir faciliter l'acquisition des logements en Côte d'Ivoire. C'est de très belles innovations. La réalité ivoirienne est tout à fait différente de la réalité béninoise. La Côte d'Ivoire a pris le devant sur le Bénin parce qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont très actifs alors qu'au Bénin c'est encore inactif.
Pour ces trois participants ivoiriens, le géobéton peut être une solution à la problématique du logement social en Afrique.
Nous devrons construire des logements sociaux, mais pour pouvoir construire, il faut des matériaux de qualité. Nous avons, au niveau du laboratoire, depuis des années, mis en œuvre le géobéton. Certainement, le géobéton pourrait être une solution pour rendre les coûts abordables aux économiquement faibles.
Les logements sociaux, une réponse aux quartiers précaires et au phénomène des inondations, selon Sériki Sangaré, président de la Chambre nationale des constructeurs et promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire.
Vous comprenez bien que ceux qui sont dans les quartiers précaires, c'est ceux évidemment qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la capacité financière d'avoir un logement. C'est pourquoi nous encourageons évidemment le processus du lancement du programme des logements sociaux pour pouvoir reloger tout cela, afin que tout Ivoirien puisse avoir un toit.
Avec plus de 5 millions d'habitants, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, fait face depuis quelques années à un grand déficit en logement. Georges Brahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Les violences entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens qui ont éclaté au cours du week-end dans l'état du Plateau, dans le centre du Nigeria, ont fait plus de 200 morts, selon le gouverneur de l'état, Simon Lelang, dans un discours publié aujourd'hui et adressé au président Muhammadu Buhari. Monsieur Lelang a dit regretter la perte douloureuse de plus de 200 personnes tuées par des membres présumés de l'ethnie peul dans une vague de violence intercommunautaire qui a fait des centaines de morts depuis le début de l'année dans les États du centre du Nigeria.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À ce micro, Jean-Roger Billon, la suite de ce journal. Un tribunal de San Diego, dans le sud-ouest des États-Unis, a ordonné mardi la réunification des familles de migrants séparées par la police de l'immigration, dénonçant la politique de tolérance zéro du gouvernement Trump en la matière. Sauf s'ils présentent un danger pour leurs enfants, les parents doivent être réunis avec eux sous 14 jours pour les moins de 5 ans et sous 30 jours pour tous les autres, selon cette décision de justice qui demande au gouvernement fédéral de faire face aux circonstances chaotiques qu'il a créées. La Chambre des représentants doit voter aujourd'hui sur une proposition qui éviterait aux familles de migrants d'être séparées quand elles sont interpellées à la frontière avec le Mexique. Mais l'issue de ce vote reste incertaine. La majorité républicaine à la Chambre basse, incapable d'arriver à un consensus, a pratiquement abandonné toute ambition de réformer profondément les politiques d'immigration des États-Unis. Cela dit, la Cour suprême a validé hier le décret migratoire du président Donald Trump, lui offrant ainsi une victoire définitive après une âpre bataille judiciaire. Bagassi Koura pour le point.
5 juges ont voté pour et 4 contre. L'arrêt de la haute cour entérine le décret qui interdit d'entrer de façon permanente sur le sol américain les ressortissants de 6 pays, pour la plupart à majorité musulmane. La Cour suprême des États-Unis a estimé que le président n'a fait qu'user de façon légitime de ses prérogatives en matière d'immigration. Et dans un tweet, M. Trump a salué, je cite, une fantastique victoire pour le peuple américain. Son décret avait provoqué un tollé mondial à sa promulgation une semaine après son arrivée à la Maison-Blanche. Par la suite, plusieurs juges ont bloqué son application et la Cour suprême met fin donc à la saga judiciaire. La troisième mouture de texte ferme les frontières américaines aux ressortissants du Yémen, de Syrie, de la Libye, de l'Iran, de la Somalie et de la Corée du Nord. Il bloque aussi l'entrée à certains responsables du Venezuela. Des dizaines d'associations de défense des migrants ou des organisations religieuses ont pris position dans ce débat.
Merci Bagassi Koura. Du sport pour terminer, la Fédération égyptienne de football a annoncé hier qu'elle ne renouvellerait pas le contrat du sélectionneur national Hector Cooper, critiqué pour une Coupe du Monde ratée en Russie, d'où les pharaons repartent bredouille avec 0 points. Le technicien argentin avait pris en 2015 la tête de l'équipe d'Égypte qu'il avait portée jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2017 et a qualifié pour la Coupe du Monde en Russie après 28 années d'absence d'un mondial. Hector Cooper, qui a prôné au mondial 2018 un jeu très défensif, a vu l'Égypte concéder 3 défaites dans le groupe A de l'autre russe. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.